France Culture.
Le journal par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La justice administrative arrête le chantier de l'autoroute A69. Victoire majeure pour les opposants et les écologistes. Un désastre financier pour les promoteurs du projet. L'État fait appel de la décision pour obtenir un sursis à exécution. Amender la réforme des retraites, voilà l'objectif du conclave qui réunit pour 3 mois. Syndicats et patronats, Force ouvrière a déjà quitté la table des négociations en dénonçant une mascarade orchestrée par François Bayrou. Un tournant en Turquie, Abdullah Öcalan, le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan, appelle ses combattants à déposer les armes et à dissoudre le groupe. Öcalan est incarcéré depuis 1999 sur une île turque. Enfin, un gouvernement pour l'Autriche, 5 mois après les élections remportées par l'extrême droite du FPE. Les conservateurs, les sociodémocrates et les libéraux vont former une coalition pour empêcher le FPE de gouverner. Le chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres doit s'arrêter, décrète le tribunal administratif de Toulouse dans une décision historique. Les juges ont annulé l'autorisation environnementale de l'autoroute, une première pour une infrastructure routière d'une telle envergure en France, 53 km à construire pour un coût total estimé à 450 millions d'euros. Bonsoir Emeline Bonavent.
Bonsoir.
Alors quels sont les arguments du tribunal administratif pour justifier l'arrêt du chantier ?
Eh bien, ce qui a fait pencher la balance du côté des opposants, c'est l'absence d'une raison impérative majeure pour justifier les atteintes à l'environnement. Pour Atosca, le constructeur de l'A69 et l'État, l'autoroute est nécessaire pour réduire l'isolement de l'agglomération de Castres. Le projet permettrait de les connecter plus rapidement et de façon plus sécurisée aux grandes infrastructures de la région, ce qui aurait selon eux un effet positif sur l'économie. Des arguments qui n'avaient déjà pas convaincu la rapporteure publique dont l'avis a été suivi par le tribunal administratif. Il estime que le projet n'est pas suffisamment avantageux sur le plan financier et sécuritaire par rapport à ses conséquences sur l'environnement et la biodiversité. D'après la décision, les routes disponibles actuellement ne sont pas aussi dangereuses que l'affirme Atosca et les usagers pourraient être découragés d'emprunter une autoroute payante.
Emeline, l'État va faire appel de cette décision avec l'espoir de reprendre très rapidement un chantier très avancé.
Oui, l'État va demander un sursis à l'exécution. Ça veut dire que si sa requête est acceptée, les travaux pourront reprendre en attendant l'audience devant la cour administrative d'appel. Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qualifie la situation d'ubuesque et regrette qu'un chantier avancé aux 2/3 soit arrêté du jour au lendemain. De leur côté, les opposants sont confiants et estiment le dossier solide, d'autant que le tribunal ne s'est basé que sur un seul critère d'illégalité pour annuler le chantier, alors que leur avocat en avait présenté plusieurs. Dans tous les cas, la procédure pourrait encore durer longtemps. L'État réaffirme son attachement à la réalisation de cette infrastructure et se dit prêt à engager toutes les voies de recours pour sa réalisation. Autrement dit, aller jusqu'au Conseil d'État si l'appel est rejeté.
Emeline Bonavent, merci. Atosca de son côté refuse de commenter la décision. Dans un communiqué, le constructeur de l'autoroute dit prendre acte de l'impossibilité de poursuivre les travaux et de l'intention de l'État d'engager toutes les voies de recours pour permettre la reprise de ce projet dans les meilleurs délais. Fin de citation. Cette décision du tribunal administratif a suscité des scènes de liesse chez les opposants du collectif La Voie est libre. Ils étaient réunis dans un bar de Toulouse sous une banderole « Stop à l'A69 et à son monde, une autre vie est possible ». Car il s'agit là d'une décision qui fera date dans le droit de l'environnement. Maître Alice Terrasse est avocate des opposants.
C'est la première fois qu'une autoroute est annulée pour des considérations environnementales et de surcroît lorsque le chantier est très avancé. Donc c'est une décision un peu inédite, un peu historique, on va dire, dans l'histoire du droit de l'environnement, qui marque un temps fort et est extrêmement positif sur l'application du droit de l'environnement.
Ça pourrait vraiment faire sauter un verrou dans la justice administrative à ce niveau-là ?
Oui, en tout cas, lever un tabou qui était lié au fait justement que les juges allaient s'auto-censurer, voyant un chantier trop avancé pour pouvoir être aujourd'hui suspendu. Nous avions tenté à plusieurs reprises de faire stopper l'avancée de ce chantier à coups de référés qui ont systématiquement été rejetés. Et malgré cela, nous n'avons pas été entendus. Le chantier s'est poursuivi à grand train. Donc malheureusement, la justice administrative est ainsi faite. Nous avons des voies de recours en référé, mais qui ne sont pas nécessairement entendus à un certain stade de l'instruction, mais qu'ils le sont plus tard et parfois trop tard. Ceci étant, on peut considérer quand même aujourd'hui que cette décision a un effet utile, dès lors que le chantier, certes, est bien avancé, mais n'est pas achevé.
Maître Terrasse répondait à Laura Dulieu. Ce coup d'arrêt au chantier de la 69 réjouit la gauche, à commencer par les écologistes, les Insoumis et la Confédération paysanne. En revanche, parmi les promoteurs du projet, les laboratoires Pierre Fabre, principal employeur du sud du Tarn, menace de privilégier d'autres territoires, affirme leur PDG, Pierre-Yves Revol, qui évoque le risque d'un enclavement définitif de la ville de Castres. Où l'on reparle de la réforme des retraites, syndicats et patronats ont entamé aujourd'hui de nouvelles discussions pour amender le texte de 2023 qui décale de 62 à 64 ans l'âge de départ. Un conclave de 3 mois promis par François Bayrou lors de son discours de politique générale. Avec un premier coup d'éclat cet après-midi, Force ouvrière a claqué la porte de la négociation en dénonçant une mascarade. Le syndicat n'a pas apprécié le dernier courrier du Premier ministre aux partenaires sociaux. François Bayrou exige le retour à l'équilibre financier du système des retraites dès 2030. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Stanislas.
Si les autres syndicats n'ont pas quitté la table des discussions, Wafia, ils critiquent eux aussi les exigences du chef du gouvernement.
FO qui claque la porte, l'UNSA qui n'est pas invité, le MEDEF qui se dit pessimiste. Cette première journée de négociation a connu quelques coups de théâtre, notamment conséquence de ce courrier. Ce devait être une discussion libre, ouverte, sans limite autre que celle de résorber le déficit. Mais hier soir tard, les partenaires sociaux ont reçu un mail de Mathilde précisant ses objectifs, toujours bien sûr éponger les dettes du système, mais d'ici 5 ans. Selon Denis Gravouille, chargé du dossier à la CGT, cette date butoir est un obstacle supplémentaire pour les partenaires sociaux.
Le cadre ne nous plaît pas, puisque nous avions demandé une discussion sur l'abrogation de la réforme des retraites. Et là, le Premier ministre, en fait, il nous demande d'en rajouter sur la résorption du déficit. À force de courir après un recul de l'âge comme étant la solution, on charge la barque. Bon, mais ceci étant, nous n'allons pas lâcher les discussions dans un premier temps, parce que nous voulons défendre le principe de l'abrogation et nous voulons défendre le fait que cette réforme est injuste.
La CFDT reste aussi à la table des négociations. La fin du déficit d'ici 2030, pourquoi pas, répond le syndicat. Pas dupe malgré tout de ce changement de programme et de cahier des charges. Le numéro 2 de la CFDT, Yvan Ricordo, n'y voit cependant pas un empêchement majeur à la poursuite des négociations.
L'horizon 2030 a été calculé par la Cour des comptes comme un effort à faire de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros dans un système de retraite qui en compte 350 milliards, c'est pas un effort dramatique du tout, c'est sans doute un horizon qui est atteignable.
Les partenaires sociaux doivent normalement poursuivre la discussion la semaine prochaine.
Wafia Kenich, merci. À noter que François Hollande critique lui aussi le courrier de François Bayrou aux partenaires sociaux. L'ancien président socialiste conseille vivement au Premier ministre de rester silencieux pour ne pas rendre impossible l'exercice. François Hollande qui s'exprimait en marge de son déplacement au Salon de l'agriculture. On ouvre une page consommation dans ce journal avec ce constat. Près de la moitié des produits achetés en supermarché sont des produits de marque distributeur. Ils sont en moyenne 20 à 30% moins chers que leurs équivalents des grandes marques, d'où leur succès, surtout après plusieurs années d'inflation. Mais leur qualité est discutable si l'on en croit une étude du journal 60 millions de consommateurs. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Des produits moins chers donc, mais souvent au détriment de la qualité selon cette étude.
Oui, c'est la première leçon que l'on peut en tirer. Ces produits de marque distributeur s'avèrent souvent décevants, explique Patricia Chéropoulos, chef de rubrique alimentation et environnement de 60 millions de consommateurs.
Les Nutri-Score D et E, donc mauvais Nutri-Score, effectivement représentent pour certaines enseignes plus de la moitié des produits. Donc c'est vrai que c'était un petit peu la mauvaise nouvelle. Et inversement, donc il y a une ou deux enseignes qui s'en sortent un peu mieux, au sens qu'elles ont à peu près un tiers des produits qui affichent un bon Nutri-Score, donc A ou B.
Alors ça ne veut pas forcément dire que ces produits sont systématiquement moins bons que ceux de grandes marques, mais pour la revue, cela reste un point de vigilance, d'autant plus que les produits des marques distributeurs sont maintenant omniprésents dans les achats des Français. Patricia Chéropoulos regrette aussi un autre point, le manque de transparence des enseignes.
Alors déjà le Nutri-Score, on sait qu'il est facultatif et malheureusement on voit que certaines enseignes ne jouent pas le jeu en le mettant que sur certaines catégories de produits qui les arrangent. Alors la composition, ils vont être obligés évidemment d'afficher les additifs qui sont ajoutés volontairement au produit final. Mais c'est surtout écrit en petit. Parfois, maintenant, une des ruses, c'est de plus mettre le vrai nom, le E de l'additif.
Des additifs qui peuvent être reliés à des problèmes de santé. Alors, 60 millions de consommateurs incitent à vérifier à chaque fois la composition des aliments. Car c'est une autre leçon de cette étude. Certaines enseignes de grande distribution vont par exemple réussir à complètement se passer d'additifs dans un plat préparé quand celui d'un autre supermarché en comptera 2 ou 3.
Explication signée Diane Berger. Une nouvelle journée difficile au procès de Joël Le Skouarnec, le chirurgien accusé de violences sexuelles sur 299 de ses patients. La cour criminelle du Morbihan a entendu aujourd'hui le témoignage d'Annie, la sœur du pédocriminel. Ses deux filles ont elles-mêmes été victimes de leur oncle, un crime pour lequel Le Skouarnec a déjà été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Annie s'exprimait en visioconférence depuis Orléans. Un témoignage douloureux que nous raconte Florence Turm.
Ma fille m'en a parlé en octobre 2000. Elle avait 10 ans, m'a fait comprendre avec ses mots d'enfant qu'elle avait subi des attouchements. Annie relate alors le huis clos entre son frère et elle dans sa voiture. Il pleurait, fumait cigarette sur cigarette, disait qu'il n'avait pas l'impression de faire du mal à des enfants, qu'il cédait à des pulsions. « Je n'aurai pas assez de toute ma vie pour réparer le mal que j'ai fait », ajoute alors Joël Le Skouarnec. Il m'a paru sincère, je lui ai dit « il faut que tu te fasses soigner ». Elle marque une pause, les questions affluent. Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? Vous n'avez pas pensé qu'il y avait des risques pour d'autres enfants. En pleurs, elle avait d'abord dit ses erreurs, sa culpabilité. Je pensais que la seule victime, c'était ma fille et qu'il n'allait pas recommencer. Je ne savais pas alors pour mon aîné. C'est peut-être ce qu'on appelle le déni, poursuit-elle, mais c'était mon frère et pour moi quelque chose d'impensable. Presque au détour de l'audition, on apprend qu'elle a été violée, elle aussi, par deux garçons de son âge à l'adolescence. Un crime de plus parmi ceux dévoilés. On est tous un peu stupéfaits des silences qui régnait dans votre famille, intervient une partie civile. Préserver les apparences, suggère l'avocat général. Leur père, en apprenant les faits, avait lancé « Il n'y a pas mort d'homme ». Annie, elle, veut comprendre. « J'ai besoin de savoir ce qui t'est arrivé. Dis-moi la vérité ». Joël Le Skouarnec se lève, même demande de pardon que celle déjà formulée. « Je ne sais pas comment je suis devenu un pédophile, un pédocriminel, lance-t-il, mais je suis certain de n'avoir jamais subi aucune agression de la part de qui que ce soit. »
Florence Turm qui suit à Vannes pour France Culture ce procès de Joël Le Skouarnec, procès qui doit se poursuivre jusqu'en juin. Deux chercheurs du CNRS condamnés aujourd'hui à 8 mois de prison ferme. Ils avaient jeté lundi des bouteilles remplies d'un produit détonant contre le consulat général de Russie à Marseille. Et cela afin d'attirer l'attention sur l'état du monde. Il n'y avait eu ni blessés ni dégâts. Le tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé un mandat de dépôt, les deux chercheurs sont partis pour passer leur première nuit en prison. Mais leur détention devrait rapidement être aménagée. Le président ayant réclamé qu'ils effectuent leur peine sous bracelet électronique. C'est peut-être la fin annoncée de l'un des plus vieux conflits au monde. En Turquie, Abdullah Öcalan, le chef du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, appelle ses combattants à renoncer à la lutte armée contre le pouvoir turc et il demande la dissolution du groupe qu'il a fondé il y a près de 50 ans. Ce sont deux élus du parti pro-kurde DEM qui ont lu devant les caméras cette déclaration de Öcalan après l'avoir rencontré dans sa prison, car le leader du PKK est incarcéré depuis 1990. Sur l'île d'Imrali. À Ankara, les précisions d'Anne Andloer.
Le message était attendu, il n'en est pas moins historique. Abdullah Öcalan appelle le PKK à se réunir en congrès pour annoncer sa décision d'abandonner les armes et de s'autodissoudre pour s'intégrer à l'État et à la société. Dans sa lettre, le leader kurde explique que les conditions qui ont présidé à la naissance du groupe armé il y a 47 ans, à commencer par la négation de la réalité kurde et les interdits imposés aux libertés, notamment à la liberté d'expression, n'ont plus cours aujourd'hui. Abdullah Öcalan estime que le PKK a perdu sa raison d'être, ce qui rend nécessaire sa dissolution. Il ne peut y avoir d'autre voie que la démocratie, écrit-il encore, invoquant également la relation millénaire entre les Kurdes et les Turcs. Dans son appel, Abdullah Öcalan abandonne en quelque sorte toutes les fondations idéologiques du PKK, puisqu'il estime, je cite, que le résultat inévitable des déviations nationalistes extrêmes, telles que l'État-nation, la fédération, l'autonomie administrative, ne peuvent apporter une réponse à la sociologie historique de la société. Tous les regards sont maintenant tournés vers le PKK. Ces derniers mois, les chefs militaires du groupe armé kurde installé dans le nord de l'Irak se sont plusieurs fois dit prêts à obéir aux instructions d'Abdullah Öcalan tout en réclamant pour ce faire de pouvoir communiquer directement avec lui. Les autorités turques n'ont rien promis publiquement à ce sujet.
Anne Andlauer, correspondante de RFI en Turquie. L'armée israélienne va rester indéfiniment dans la zone tampon à la frontière libanaise. Déclaration aujourd'hui du ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Après 2 mois de guerre contre le Hezbollah, un cessez-le-feu est en vigueur dans cette zone depuis le 27 novembre. Israël qui a déjà créé d'autres zones tampons en territoire étranger pour assurer sa sécurité après les massacres du Hamas du 7 octobre 2023. Michel Paul, correspondant de RFI, nous appelle de Jérusalem.
Nous avons reçu le feu vert des États-Unis pour cette zone tampon au Liban Sud et nous y resterons sans limite de temps, explique Israël Katz. Le ministre israélien de la Défense s'adresse aux responsables des villes et autres agglomérations évacuées au lendemain du 7 octobre 2023. En principe, le retour des déplacés du nord du pays doit débuter la semaine prochaine. Nous voulons garantir une sécurité totale pour toutes les localités du Nord, souligne encore le ministre. L'armée israélienne a procédé à un retrait partiel du Liban le 18 février dernier, tout en annonçant son maintien dans 5 positions stratégiques situées sur des collines le long de la frontière avec Israël, créant ainsi, dans les faits, une bande de sécurité au Liban Sud, tout comme c'était le cas entre 1985 et 2000. Un mode opératoire qui ne se limite pas à cette frontière. Les forces israéliennes ont également mis sur pied une zone tampon sur le flanc syrien du plateau du Golan. Là également, le ministre israélien a proclamé le mois dernier l'intention d'Israël de veiller à la démilitarisation de ce secteur pour une durée indéfinie. Et ce matin, Israël Katz, sans provoquer de véritables surprises, a annoncé qu'Israël ne se retirera pas ce samedi du corridor de Philadelphie comme prévu par l'accord de cessez-le-feu, une zone tampon de 14 km le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Principal objectif, empêcher le Hamas de se réarmer.
En Israël, toujours, plusieurs blessés aujourd'hui dans un attentat présumé à la voiture Bélier dans le nord du pays. Un véhicule a foncé sur des piétons à un carrefour près de la ville de Haïfa. Il y a au moins 7 blessés, dont un grave selon le dernier bilan. La police israélienne dit avoir réussi à intercepter le véhicule dont le conducteur a été interpellé. 5 mois après les législatives de septembre, l'Autriche se dote enfin d'un gouvernement. En l'occurrence, une coalition associant les conservateurs, les sociaux-démocrates et les libéraux. La chancellerie autrichienne revenant à l'EVP, le parti conservateur. Cette coalition renvoie dans l'opposition le FPE, le parti d'extrême droite pourtant arrivé largement en tête du scrutin. Un parti qui avait échoué à trouver des partenaires pour gouverner. Isorias nous appelle de Vienne.
Il aura fallu 151 jours pour former un gouvernement, soit la durée la plus longue depuis l'après-guerre. Sociaux-démocrates, conservateurs et libéraux avaient dans un premier temps échoué à s'entendre. Les conservateurs s'étaient alors tournés vers le parti d'extrême droite FPE, arrivé en tête des législatives avec 29% des voix. Mais les discussions n'avaient pas abouti en raison de la radicalité du FPE, formation opposition eurosceptique et pro-russe. C'est ce qui a poussé ces trois partis à reprendre leurs négociations. Ils ont présenté aujourd'hui leur pacte de coalition de 210 pages. Celui-ci contient notamment des économies de plus de 6 milliards d'euros pour cette année. Plusieurs mesures visant à faire baisser l'inflation, mais aussi à renforcer la lutte contre le terrorisme et prévoit en matière d'immigration la suspension du regroupement familial. Sur le plan international, l'engagement pro-européen est clairement réaffirmé. Cette coalition inédite en Autriche relègue donc le FPE, qui est aujourd'hui le parti le plus fort en termes de voix dans l'opposition. Le nouveau gouvernement devrait être investi la semaine prochaine.
Isorias, correspondante de France Culture en Autriche. Un mot du temps, demain, le soleil dominera sur la plupart des régions. Après les grisailles matinales, il devrait neiger sur les Pyrénées, mais aussi sur les Vosges à partir de 500 mètres d'altitude. Demain matin, il fera entre moins 1 et 9 degrés de l'intérieur des terres aux zones littorales. Les maximales iront de 6 à 15 degrés du nord à la Méditerranée. Il fera même aux alentours de 18 degrés. Et en Corse, c'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Jordan Fuentes.